Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons préparer Noël pour ce mois de décembre et justement nous allons le préparer avec un propos qui je pense doit intéresser beaucoup de monde, surtout si on le comprend au fond des choses. Avec nous Bernard Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Donc on va parler de cet accord libre-échange entre le Canada et l'Union européenne qui, en raccourci, s'écrit CETA.
Oui, bien sûr, c'est de la façon anglo-saxonne dans cet accord économique qui a été signé il y a presque un an et qui est en application dite provisoire pour 2 ans.
Bernard, c'est quoi le CETA ?
Bien, c'est un accord, comme il y en a d'autres qui ont été passés dans le passé, de libre-échange, c'est-à-dire que les mouvements de marchandises, pour l'essentiel, sont libres d'un État à un autre. L'Union économique européenne repose sur les principes du libre-échange. Ce qui a été signé avec le Canada, c'est que les entreprises canadiennes peuvent venir librement vendre leurs produits en Europe. De la même façon, les entreprises européennes peuvent vendre sur le papier librement au Canada. Ça, c'est le principe global, ça n'impressionne personne. On se dit, c'est, pourquoi pas, ça peut être une bonne chose. Oui. Mais il faut rentrer dans le détail. Il faut aller voir au plus profond.
Tout à fait, c'est ce qu'on va essayer un petit peu de faire. Alors, à quoi ça sert concrètement ?
Bien, concrètement, le premier rapport que l'on voit, la première réaction, c'est de se dire que ça peut être une bonne chose. Les entreprises ont des portes ouvertes, elles peuvent exporter. Donc, on se dit que ça va créer des emplois, mais on va importer des produits. Donc, ça va détruire les emplois localement.
Oui.
Bien entendu. Ensuite, on peut se dire, bon, on va importer les produits qui sont meilleurs marchés d'un côté que de l'autre. Oui, pourquoi pas. Mais derrière, quel type de produit ? Il faudrait se poser la question. Et dans le CETA, c'est très, très important. Le Canada, qu'est-ce que c'est ? C'est une frontière avec les États-Unis. C'est une frontière, d'ailleurs, où entre eux, il y a un accord de libre-échange. Donc, quand on parle qu'on va importer des produits canadiens, on n'a pas beaucoup de soucis à se faire pour la plupart d'entre eux. Ce sont des entreprises américaines.
Et oui, tout à fait. Donc, ça ne va pas être peut-être ce qu'on pense au premier degré. Est-ce qu'il y aura plus d'importations que d'exportations ? Comment
là,
ça marche ?
Comment ça marche ? C'est assez simple. On renvoie toujours aux règles économiques. C'est le meilleur qui l'emporte. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est le meilleur marché ou c'est celui qui fait les meilleurs produits qui l'emporte. De ce point de vue, dans ce monde économique, on peut dire que c'est peut-être équilibré. Mais ce que l'on voit dans ce débat, dans cette concurrence que l'on suscite ou que l'on augmente, c'est que les petits n'ont guère de chance. Ça ne peut être que les très grandes entreprises qui ont tous les services, toutes les compétences, les capitaux pour investir et développer des produits adaptés à ces nouvelles demandes. Mmh. En sachant aussi, et ça on en parle très peu à la radio ou à la télé, que dans le CETA, il y a aussi l'accord pour les marchés publics. On réfléchit un instant, là, on se pose la question marché public. Oui, ma commune lance un marché ou le département pour un pont, un ouvrage. Eh bien, demain, on pourra avoir sans difficulté une entreprise canadienne qui remportera l'appel d'offres. À quelles conditions ? D'où viendront les travailleurs ? Quelles sont leurs retombées locales ? Ça interpelle énormément.
Oui. Ça concerne tous les produits, alors ?
Ça concerne tous les produits sauf quelques-uns, temporairement. Par exemple, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, il y a un certain décalage. C'est censé être en application dans quelques années. Mais d'entrée de jeu, ça concerne bien entendu, par exemple, la viande.
Oui, les alimentaires.
Alimentaires, tous les produits. Mais parlons de ce qui concerne les gens locaux, par exemple. Ça concerne la viande et le lait. Alors au départ, sur 3 ans... l'exportation par le Canada vers l'UE de viande serait limitée à 75 000 tonnes. Bon, ce n'est pas très important, mais c'est la progression qui est intéressante. Actuellement, il est de 5 000 tonnes. C'est pas mal en 3 ans. Mm-hmm. Si on projette à 3 ans supplémentaires, on se trouve à 500 000 tonnes. Ne parlons pas du lait, où là, tout est ouvert. Ne parlons pas de la viande porcine, où alors là, la progression est fulgurante. Or, quelle est la qualité de ces produits ? Voilà quelque chose qui concerne le consommateur. Vous le savez bien, tout le monde le sait. Tout ce qui est viande porcine ou viande bovine, aux États-Unis et au Canada, s'est élevé d'une manière que nous trouvons non conforme pour notre éthique et pour notre santé. Mmh. Vous savez bien que, par exemple, dans l'alimentation des vaches et des bœufs aux États-Unis et au Canada, on intègre des farines animales. C'est-à-dire que le bœuf mange une partie de soi-même, en quelque sorte. Nous, ce n'est pas tolérable.
Oui, c'est
vous savez bien que, par exemple, pour faire encore plus de lait, on manipule à coup d'estrogène la périodicité de la vache dans la production du lait.
Oui.
Et oui, nous, on n'en veut pas. Mais qui va contrôler?
Alors, justement,
qui va vérifier?
Tout à fait. Les gouvernements européens vont pouvoir peut-être jouer là-dessus pour refuser l'entrée de ces produits sur le sol européen.
Oui, on peut l'espérer, parce qu'en termes de calendrier, c'est assez simple. Aujourd'hui, le Parlement européen a approuvé cet accord en février 2017. Donc, on pourrait dire carotte cuite. Simplement, les États, les 28 de l'Europe, actuellement, doivent, les parlements nationaux, l'approuver, les uns après les autres. En sachant que, si ce n'est pas approuvé, et c'est quelque chose de très fort et important, que je suis en train de dire, si un État refuse, le CETA n'est pas signé. Mais tout ce qu'il a prévu s'applique pour 3 ans.
D'accord.
Donc, oui, on n'a pas le droit, mais pour 3 ans, on a le droit. Que se passera-t-il ensuite? Puisqu'ensuite, l'appareil commercial des consommateurs deviendra accro à je ne sais quel produit canadien, en disant, mais mince, zut, je le voudrais bien. Donc, il y aura peut-être... Ça vise à avoir un retournement public par rapport à cet accord.
Oui.
Mais, et il y a ensuite un deuxième point qui est très important qu'on va voir un peu plus tard. Mais pour revenir sur cet aspect d'approbation du CETA, les parlements européens doivent se prononcer de chaque pays. Certains, on le sait, ont des réticences. On l'a vu en Belgique, mais ça a été vite étouffé, bien sûr. Et nous connaissons la position officielle de la France à travers les propos de son président, qui lui s'est déclaré très favorable au CETA.
Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes de santé publique avec cette qualité qui n'est pas la même que la nôtre? Parce que la qualité alimentaire, on sait faire quand même en France.
Ils savent faire aussi, certainement. Il ne faut pas prendre que ce soit les Américains ou les Européens. Ils savent faire de la qualité. Mais,
oui, mais ils n'exportent que la batterie.
Ils exportent la batterie. Ils exportent le moindre coût. Si vous allez au Canada, vous allez trouver d'excellents produits qui sont réservés à l'élite canadienne. Il faut vraiment les payer. Or, dans les mécanismes de libre-échange, c'est le prix qui détermine le choix du consommateur. Donc, le très bon produit, vous allez le réserver pour une clientèle de luxe, et les autres, c'est votre argument commercial. Le monde d'aujourd'hui est ainsi fait.
Tout à fait. S'il y a problème de santé publique, qui va payer les pots cassés?
Bon, comme d'habitude. Un, le consommateur. Deux, la terre entière. On va y revenir, le climat. Et ensuite, certainement, l'emploi.
Mmh. Donc, c'est quand même un petit peu pervers dans son genre, ce CETA, quelque part. Et il
oui.
est pervers en quoi?
Alors, il y a un côté qu'on pourrait considérer comme un petit peu amusant. Le gouvernement français avait nommé une commission d'experts. Alors, on ne va pas parler des experts aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'un expert? On pourrait s'interroger longuement. Mais une commission dite d'experts, nommée par le gouvernement, qui devait se prononcer sur le contenu du CETA. Cette commission a rendu le résultat de sa réflexion il y a quelques mois, et elle a dit très simplement que c'était un accord qui était considéré comme dangereux, car dans son contenu, il y a une évolution vers de plus en plus d'ouverture, c'est-à-dire on supprime les barrières, donc y compris les barrières sanitaires. Donc pour cette commission, c'est une menace qui pèse sur la protection du consommateur. Puis c'est une barrière, on la fera sauter. D'accord ? La deuxième chose qui les avait heurtés, c'était que cet accord était dangereux pour le climat. Parce que dans l'accord, il n'y a rien concernant le climat. Et là, on va transporter des produits dangereux pour notre planète ou on va réutiliser des produits dangereux pour notre planète. Il faut savoir que le Canada, grand pays immense et largement vide, est quand même, en termes de carbone, une catastrophe. Ils exploitent le gaz de schiste, ils exploitent la lignite d'une manière intensive et ils vont faire des extractions polaires bien au-delà du cercle polaire. Donc, il y a un comportement de ce point de vue qui est absolument irresponsable, comme les Américains d'ailleurs, et comme les États-Unis, irresponsable du point de vue du climat. Bien sûr, ces comportements, ça va venir ici, pourquoi pas. Et ensuite, cette commission a lancé vraiment un point d'alerte sur notre agriculture. On vient de parler des bovins, des porcins, des porcs, mais aussi, à l'air de rien, le Canada n'a reconnu que 140 appellations d'origine contrôlée sur les 1500 qu'il y a dans notre agriculture. Ça signifie que pour 1350 produits, ils sont prêts à les imiter, à les balancer, à les écraser. Voilà ce que ça signifie.
Ouais.
Sauf dans le vignoble. Les Canadiens aiment bien le bon vin. Les appellations de vignoble sont reconnues depuis de nombreuses années au Canada. Quand on prend, vous voyez, cette donnée simple, évidemment, une grande entreprise américaine peut se dire, tiens, par rapport au fromage, il y a telle et telle appellation que nous avons reconnue, mais celle-là n'est pas reconnue. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on fonce. On fait une copie, n'importe quoi, on lui donne un nom quasi similaire, et en avant la musique, et on propose ça dans toute la distribution avec 20% de marge. Mmh. Et ils vont ramasser. Et on fait la publicité à la télévision, et tout le monde sera content de consommer ce produit.
Oui.
C'est ça, le danger. Il y en a un autre qui est très fort, dont nous allons parler, c'est l'arbitrage, bien sûr.
Oui. Alors, avant de parler de ça, je voudrais justement parler, est-ce que la crise du beurre va s'engouffrer justement dans ce créneau ?
La crise du beurre est une crise qui est un rapport de force entre la grande distribution et les producteurs de lait. Donc, elle est d'abord interne. Mais ce qui est sûr, c'est que si la grande distribution peut obtenir du lait 20% meilleur marché que sur le territoire national, ils se tourneront vers ses producteurs.
D'accord.
C'est la logique historique. C'est la concurrence aboutit à ce paradoxe. Mmh. Mais en sachant que le Canada a des capacités de production qu'on ne soupçonne pas, et surtout une productivité qu'on ne soupçonne pas non plus. Un élevage de vaches au Canada, ce n'est pas 18 personnes. C'est 18 machines et une personne.
Ah oui, ça change tout.
Pas mal.
Ça change tout, en effet. Est-ce que le circuit court va être mis à mal ?
Il n'est déjà pas très bien portant, quelque part, même s'il connaît une progression. Et donc là-dessus, ça sera comme l'arrivée de produits de grande distribution. Il ne sera pas mis en mal en lui-même, parce que le circuit court, c'est une réalité plus éthique, plus gustative aussi, il faut être clair, plus d'amitié locale, de relations locales, de territoire. C'est ça le circuit court, c'est s'approprier la production, avoir un lien direct avec le producteur et donc le produit, à travers le produit. Là, non, on ne parle pas de circuit court. Est-ce qu'il sera mis à mal ? Non, pas nécessairement. Ce n'est pas là que ça se jouera. Je dirais très simplement que la carotte canadienne risque à terme de supplanter la carotte hollandaise. Là, c'est une réalité pour des tonnages énormes.
Mmh. Et donc, les consommateurs seront obligés d'en passer par là, finalement.
En tant que consommateur, on subit, certes. Mais quand on va faire des achats, on est un peu responsable.
Ah, tout à fait.
Il faut être conscient que si on achète brésilien ou canadien, c'est écrit dessus, quand même, pour l'instant. Mmh. Pas pour longtemps, semble-t-il.
Oui.
Mais c'est écrit dessus, donc on fait des choix.
Donc, vous vouliez parler de l'arbitrage.
Alors ça, c'est peut-être le point le plus fort dans le CETA. C'est-à-dire que s'il y a un État, il est signé, il est en application. Un État dit, les carottes canadiennes, dans lesquelles on a mis tel type de produits chimiques, faisons au plus simple, ne sont pas conformes à la législation française, donc on interdit leur importation. À ce moment-là, l'entreprise canadienne est dans son droit absolu d'attaquer l'État.
L'État français.
En l'occurrence, l'État français. De l'attaquer en lui disant « Vous avez porté à mes intérêts légitimes, donc il faut m'indemniser. » L'intérêt légitime de l'entreprise, c'est de faire des bénéfices, c'est tout. Une entreprise qui ne fait pas de bénéfices, elle est hors jeu dans notre monde actuel. Donc, une entreprise qui est pénalisée à ce niveau-là peut se retourner vers un État et se faire indemniser. Et donc aboutir à une condamnation. C'est déjà arrivé. Attention, c'est déjà dans certains accords. Et ce débat, on va dire, ça fait appel à la justice. Il y a des lois, des tests d'application, des tribunaux qui sont adaptés, autorisés. Pas du tout. C'est ce qu'on appelle une cour d'arbitrage, c'est-à-dire que ce sont des experts. En principe même, c'est prévu dans le CETA, ils sont trois. Il y a un expert nommé très simplement parmi 10 par l'État français, un expert nommé par le Canada parmi 10 candidats et un expert dit totalement indépendant nommé par les deux pays parmi 10 candidats. Ce sont ces trois individus.
Oui.
On ne sait pas qui c'est, pourquoi ils sont experts, quelles sont leurs compétences, est-ce qu'ils ont été achetés, manipulés,
voilà,
etc.
Ça allait être ma question.
Et vous le savez, dans toutes les cours d'arbitrage, comment ça se passe.
Oui.
Eh bien voilà, c'est eux qui décideront, un, qui a raison, deux, le montant. Il n'y a plus de justice. Ça ne passera jamais en justice. Jamais.
Donc, ce qui veut dire que s'il y a un grand problème sanitaire...
Oui, si un grave problème sanitaire, un État peut dire ceci, et on se retrouve dans la cour d'arbitrage.
Oui.
Mais là, la
et
cour
là,
d'arbitrage,
si
peut dire... Oui, l'entreprise, la cour d'arbitrage, dire c'est abusif,
oui.
ils auraient dû attendre, avertir, ils vous pénalisent, etc. Vous êtes condamné à reporter la décision et à indemniser l'entreprise.
D'accord.
Attention, ça existe dans les autres accords. Les cours d'arbitrage, c'est très vieux. Ça existe depuis très longtemps. Et donc, on voit très bien les résultats que ça induit.
Mmh.
Il n'y a plus de contrôle démocratique. Il n'y a plus une véritable justice indépendante. C'est en cela que le CETA est peut-être le plus dangereux. On introduit dans nos sociétés une façon du vivre ensemble, c'est-à-dire un équilibre des droits et des devoirs, qui est laissé à l'appréciation de quelques individus, cours d'arbitrage.
Oui.
Où va-t-on? Moi, je pose vraiment aujourd'hui cette question. On est presque au-delà de l'économie, ou
oui.
Vraiment en bordure.
J'ai une autre question qui me vient. On fait rentrer, par ce CETA, on fait rentrer des produits sur les territoires européens. Et les Européennes, normalement, devraient faire repartir des produits dans le Canada et aux États-Unis, c'est ça?
Oui, bien sûr.
Si nous, si sur un pays européen, une entreprise est mise à mal justement par ces échanges, est-ce qu'elle peut elle aussi avoir droit à ce libre arbitrage?
Non, une entreprise qui n'est plus concurrentielle et qui est amenée par exemple à disparaître parce qu'elle est plus compétitive, n'a droit à rien du tout. Sauf à prouver qu'elle est victime d'un dumping non économique. Mais ça... Je ne connais pas de victoire.
Non, mais je veux dire, si par exemple, on a une entreprise, mettons, allez, on va dire les mots, une entreprise française envoie des produits au Canada.
Oui.
Le Canada refuse ses produits, mettons. L'économie de notre entreprise est mise
à
mal.
Elle peut attaquer aussi.
Elle peut attaquer.
C'est dans les deux sens.
D'accord.
C'est absolument dans les deux sens.
Oui.
Mais quand vous dites une entreprise, je vais attirer votre attention sur quelque chose d'important.
Oui.
Une petite entreprise n'a pas les moyens de tout ça.
Ah oui, tout à fait.
Une moyenne non plus. C'est vraiment un truc, une organisation, un accord qui est fait pour des transnationales,
okay.
des entreprises d'envergure mondiale. Ça veut dire qu'il faut avoir des cabinets d'avocats partout. Hein. Il faut suivre toutes les affaires de très près. Il faut avoir une fonction d'influence auprès des décideurs, vous savez, hein, ce qu'on appelle le fameux lobbying. Quand vous voyez qu'une entreprise française a dépensé l'année dernière 600 millions d'euros à Bruxelles en lobbying, est-ce que vous imaginez une entreprise française que je ne citerai pas, mais qui travaille dans l'électricité, qui a dépensé des millions et des millions de lobbying à Bruxelles? Comment ça se fait qu'elle n'a pas plutôt diminué le prix de l'électricité auprès des consommateurs?
Tout à fait.
Voilà des choses, c'est une réalité.
Mmh. Vous disiez que la loi, enfin, cette application est passée. Est-ce qu'elle est définitivement passée ou est-ce qu'il peut y avoir encore...
Elle est soumise au Parlement national. Donc ça va passer à l'Assemblée nationale, ça a été fait. Mais française, le président est pour. Mais il y a des États qui ne se sont pas prononcés. Donc on attend.
Mm-hmm.
Et on va voir beaucoup que fait l'Angleterre.
Oui. Dans l'État français est pour ce procédé.
Oui. Le président de la République l'a dit à plusieurs reprises qu'il était tout à fait d'accord avec cet accord. Que c'était un progrès, etc. Oui, mais c'est dans l'idéologie ou les promesses d'un candidat.
Oui.
Ce sont des mesures de libre-échange. Ça, toute l'histoire du monde est construite sur, effectivement, du libre-échange. Mais là où il y a des petits points qui sont pervers, c'est par exemple l'arbitrage et conflit. Là, nous sommes en plein dans la perversité, la disparition de la justice,
oui,
tout simplement.
Tout à fait.
Donc c'est là, si vous voulez, on voit bien l'accord économique, mais il faut s'interroger aux conséquences sociales sur les structures des pays et sur la gestion des pouvoirs.
Mm-hmm.
Et là, on est autre part. On n'est plus dans le libre-échange.
Oui.
On est peut-être quelque part, ce que j'ai du mal à dire en tant qu'économiste, dans la prise du contrôle de la réalité et de la décision par les multinationales.
Oui,
voilà.
En effet.
C'est un autre monde qui se bâtit de ce point de vue.
Est-ce que c'est un pas qui va être franchie ou qui peut-être est en passe d'être franchie vers le libertalisme ?
Non, je ne crois pas. C'est peut-être deux choses qui sont un peu séparées en soi pour l'instant. Mm-hmm. Je dis que c'est un pas vers le contrôle de la décision politique, donc nationale, par des entreprises multinationales.
Donc ce qui veut dire que demain, s'il y a un chef d'entreprise hyper multinational veut se présenter aux élections d'un pays, il le pourra.
Et pourquoi voulez-vous qu'il se présente ?
Je ne sais pas. Mais c'est une Marie, question.
Le président est son ami. C'est lui qui dicte les décisions.
Oui.
Le président lui doit tout ou lui devra tout.
Donc on n'aura plus la
vous
liberté.
Savez, ça, il ne faut pas aller bien loin. Vous allez en Afrique noire, vous allez voir des cas d'exemple d'États qui sont contrôlés, dont les présidents de la République sont totalement inféodés à telle ou telle entreprise. Malheureusement, dans certains cas, elles sont françaises. Mmh. Je ne citerai aucun nom, bien sûr.
Oui. Donc, en France, concrètement, maintenant, que risque-t-on ?
Ben, en France, on risque de voir bientôt des produits qui sont protégés par des appellations. Un fromage des Cévennes ou des Pyrénées. Demain, on verra arriver un fromage des Cévennes avec deux S et un fromage des Pyrénées avec quatre E, n'est-ce pas, et trois R. Et voilà. Et l'appellation n'a plus aucun sens. Ça sera du fromage, on aura fait le goût avec des produits chimiques, il y aura bien du lait de vache pour l'instant. Vache, on ne sait pas comment elle sera enlevée, à quel endroit. Il ne sera certainement pas mauvais lorsqu'on le goûte, ou il n'aura aucun goût, mais enfin, on fera ce que le consommateur veut. Point. Mm-hmm. Et là, on est dans le business.
Et est-ce qu'on aura intérêt, justement, les petites entreprises, parce qu'à côté d'une multi-hypernationale, c'est tout petit. Est-ce qu'on aura intérêt justement à continuer le savoir-faire que l'on a depuis des temps immémoriaux ?
On a intérêt, on a la décision, le souhait, la pensée de le faire tant qu'on peut, jusqu'à quand ? Parce que dans beaucoup de cas, on le voit, cette recherche, cette volonté, ce désir de conduire des traditions, des savoir-faire, c'est une histoire de génération. Et quand je regarde autour de moi, je me pose souvent des questions sur les nouvelles générations. On est peut-être, et là c'est beaucoup plus large que l'économie, dans un changement de notre monde. Mmh. Comme je dis des fois, quand je vais à Toulouse, j'y vais régulièrement, faire un tour en ville, j'avoue humblement que je trouve qu'on est dans un monde différent de celui de Rieux, de Montesquieu, de Carbone, de Cazères, d'Haute-Rive. On est quelque part ailleurs. Des fois, même, je me dis, t'es en vacances.
Donc, l'humain ne va plus avoir question au chapitre.
Est-ce qu'il a déjà question au chapitre ? Et là, je dois dire, Gisèle, que ça pourrait faire l'émission complète d'une émission à Radio Galaxie.
Oui. Pour ces fêtes de Noël que nous nous préparons tous pour cette année 2017 qui va s'achever, les fêtes de fin d'année, CETA ou pas CETA ? Produits français ou pas ?
Produits français, dans la mesure du possible. Mais les autres pays, peuples du monde ont le droit de vendre leurs produits. Il ne faut pas être opposé à l'importation systématique. Ce n'est pas là le vrai sujet. Le vrai sujet, il est peut-être par rapport à cette perte de liberté, cette perte de justice. D'accord ? Moi, ça ne me gêne pas que quelqu'un, effectivement, importe, je ne sais pas, du miel du Maroc, parce que c'est les fêtes, ou des dates de Jordanie pour les fêtes. Pas du tout. Ces peuples-là ont aussi le droit de vendre leurs produits et leurs bons produits. Ce n'est pas ça le plus gênant. Ce n'est pas là. Mais s'il y avait un vœu pour ces fêtes qui rejoint une de mes émissions de cette année, c'est quand on accumule des tas de choses, qu'on remplisse des paniers dans les grandes surfaces, ou chez les petits commerçants, ou chez le producteur en circuit court, qu'on réfléchisse bien sur les menus, sur les repas, et qu'on ne gaspille pas, s'il vous plaît. Halte au gaspillage, on achète beaucoup trop, et on jette beaucoup trop de produits consommables. Et dans notre zone, dans notre village ici, dans le Volvestre, je dois dire aussi qu'il faut penser qu'il y a de la pauvreté. Il serait temps d'y penser.
On va s'arrêter sur cette réflexion. Personnellement, je suis plus pour les vrais produits, non pas les produits qu'on ne connaît pas forcément, fait avec on ne sait pas quel produit. Je souhaite donc, avec vous, Bernard, si vous me le permettez, on va s'associer pour souhaiter de très, très bonnes fêtes de fin d'année à tous nos auditeurs. Et on leur souhaite bien sûr de se régaler avec les bons produits français tant qu'on peut en trouver.
Bien sûr, bonne fête à tous.